France Info.
À la une de ce journal, l'astronaute française Sophie Adnot, en apesanteur, bien arrivée dans la Station Spatiale Internationale, sa nouvelle maison pour les 8 prochains mois. Les réactions politiques à Lyon après la mort de Quentin, jeune militant identitaire de 23 ans, roué de coups jeudi soir. Situation toujours très compliquée dans le sud-ouest, en Gironde, plusieurs communes sont toujours les pieds dans l'eau. Enfin, au jeu de Milan-Cortina, la moisson de médailles en biathlon va-t-elle se poursuivre? Encore deux épreuves et deux chance de podium pour les Bleus aujourd'hui. Ça y est, Sophie Adnot a posé ses valises dans la Station Spatiale Internationale. Elle est la deuxième femme française à être dans l'espace, arrivée hier soir avec ses trois coéquipiers pour une mission d'environ 8 mois. Olivier Aymon, leur vaisseau Crew Dragon s'est amarré à 21h15.
Et c'est avec un large sourire et tout cheveux flottants que Sophie Adnot est apparue la première à travers les coutilles d'entrée de la Station Spatiale Internationale, un peu plus de 2 heures après l'amarrage de la capsule Crew Dragon. La Française devance ses camarades de voyage, tous accueillis par les 3 astronautes déjà présents à bord. Quelques accolades et le groupe s'installe face à la caméra pour quelques mots de bienvenue du commandant.
Welcome to Crew 12.
We're really le russe Sergei Kuzverchkov qui passe ensuite le micro aux arrivants.
That was quite a ride, but very fun.
It was also c'était un sacré voyage, mais très sympa, dit Sophie Adnot en anglais, avant de remercier ses collègues plus expérimentés pour leurs conseils durant ce vol. La Française qui ajoute que voir la Terre depuis l'espace est quelque chose d'époustouflant, des images et des souvenirs qu'elle promet de partager prochainement avec le public. Sophie Adnot, qui comme l'Américain Jack Attaway a officiellement reçu ses ailes d'astronaute, la tradition pour ceux qui effectuent une première mission en orbite à 400 km au-dessus des nuages, un joli cadeau de Saint-Valentin pour ses amoureux de l'espace.
Olivier Aymon, les réactions sont nombreuses après l'annonce hier de la mort de Quentin à Lyon, jeune militant identitaire victime de violences jeudi soir en marge d'une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan. Emmanuel Macron appelle à condamner les auteurs de cette ignominie, quand dans la ville, en pleine campagne des municipales, cet événement bouleverse les agendas politiques des candidats lyonnais. Mathilde Imberti.
Jean-Michel Aulas, candidat du centre et de la droite, annonce mettre en veille sa campagne ce dimanche. Des opérations de tractage étaient prévues selon son équipe, ainsi qu'une déambulation dans le quartier populaire de la Guillotière. Il reprendra demain. Pas de campagne aujourd'hui non plus pour la candidate de la France Insoumise, Anaïs Belouassa-Cherifi, par ailleurs députée du Rhône, annule ses actions terrain. Dans un tweet hier soir, elle adresse ses condoléances et pensées à la famille et aux proches de Quentin et souhaite que toute la lumière soit faite sur ce drame. Au Rassemblement national, Alexandre Dupalet suspend sa campagne sans durée annoncée face, dit-il, à un drame insoutenable. Grégory Doucet se rendra en tant que maire à la commémoration de la rafle de la rue Sainte-Catherine aujourd'hui. En tant que candidat, il n'avait pas prévu d'action de terrain aujourd'hui. Réagissant à la mort du jeune Quentin, aucun désaccord politique ne peut justifier de tels actes, écrit l'écologiste.
Et suite à cet événement, de permanence de la France Insoumise ont été dégradés à Metz et Lille. Le ministre de l'Intérieur demande au préfet de renforcer la vigilance autour des rassemblements politiques. Et aujourd'hui à Paris, un hommage sera rendu aux militants lyonnais place de la Sorbonne à 16h. Des magistrats désignés hier soir par le parquet de Paris dans l'affaire Epstein. Leur rôle sera d'analyser d'éventuelles infractions liées à des ressortissants français, avec sur leur bureau les 3 millions de documents publié aux États-Unis à parcourir. Dans le sud-ouest, la vigilance rouge pour crues toujours active. 2 départements sont concernés, le Lot-et-Garonne et la Gironde, ou dans le village de Sainte-Croix-du-Mont, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Bordeaux. Une digue a cédé hier, Arthur Froidin, et les habitants ont dû vite s'activer face à la montée des eaux.
À la limite du village voisin de Verdelet, tout en bord de fleuve, pas une minute à perdre pour Christophe, habitant du lieu-dit la Garonnelle.
Ça monte grave là. Là c'est le sauve qui peut, là on surveille. Je mets un petit carré là, un petit pavé et toutes les 10 minutes il est noyé. Je sais pas où ça s'arrête quoi. Regardez, vous avez vu, j'ai mis juste avant que vous arriviez. Ah, c'est peut-être par là, c'est peut-être par Sainte-Croix que ça va m'arriver dessus.
La situation se tend pour sa maison où l'eau avait pénétré lors de la dernière grande crue il y a 5 ans.
Ouais. Ah, je vais sortir la voiture là.
Faut pas s'éterniser.
Ça va venir par la gauche là. À tous les coups, ça va arriver par là.
Quelques dernières manœuvres pour mettre en sécurité ses meubles et les surélever avant d'abandonner sa vieille bâtisse.
Allez les gars, on sort les biscottos.
Même réflexe dans cette épicerie du bas du village où les comptoirs réfrigérés sont montés sur des parpaings.
On a remis un les gars.
Je suis à fond.
La route juste devant est est rapidement rendu inaccessible par la montée des eaux. Conséquence, l'auberge girondine, restaurant voisin, doit lui fermer ses portes.
Je suis obligé par la force des choses. On était complet, mais voilà. Dommage.
C'est la repas de Saint-Valentin, c'est ça?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui et demain. Pile quand il faut pas.
Plus de 80 réservations annulées pour le propriétaire Frédéric, le service de l'année. Dans le village où il est maintenant impossible de rouler sur la D10 qui longe la Garonne, mais aussi entre le haut et le bas de Sainte-Croix-du-Mont.
Reportage d'Arthur Fradin, ici Gironde, pour France Info. Au nord de la France, c'est un épisode neigeux qui va perturber la journée, particulièrement en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, où des restrictions de circulation sont en place. Les deux régions sont en alerte orange, neige et verglas. Le trafic aérien est aussi réduit dans les aéroports parisiens. Direction Munich désormais, la ville allemande accueille sa conférence sur la sécurité et hier, en marge de l'événement, les rues de la capitale bavaroise étaient aux couleurs de l'opposition iranienne, avec une manifestation géante de 200 000 personnes pour réclamer la chute du régime. Dans la foule se trouvait un homme qui se dit prêt à mener la transition dans son pays, Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran déchu. Vous y étiez, Sébastien Baer.
Rarement le champ de foire du Theresien Wiese avait connu pareil rassemblement, avec des partisans de Reza Pahlavi venus de toute l'Europe, arrivés en train depuis la Hongrie ou dans des bus affrétés depuis plusieurs capitales. Partout, des portraits du fils du Shah, comme celui que tient cette manifestante.
On vient de Suède pour montrer qu'on a choisi le roi Reza Pahlavi. Lui, il respecte la démocratie et la diversité des opinions. Il est rassembleur, il va nous aider et on croit en lui.
Devant près de 250 000 partisans, deux fois plus qu'attendu par les organisateurs, Reza Pahlavi fait son apparition à la tribune.
Je m'engage à être pour vous le leader de la transition, pour qu'un jour nous ayons enfin la possibilité de décider du destin de notre pays par les urnes et des élections libres.
Une promesse qui provoque la colère de Reza, membre de l'opposition iranienne.
Il ne représente pas le peuple iranien. Il n'est pas retourné dans le pays depuis 46 ans et n'a aucun réseau en Iran. Son plan de transition, c'est de régner seul. Ce sont les Iraniens qui doivent décider de leur destin.
Mais les voix critiques avaient bien du mal à se faire entendre hier, recouvertes par les vivas des partisans de Reza Pahlavi.
Le reportage de Sébastien Baer à Munich. La France, cinquième au classement des médailles des Jeux de Milan-Cortina aujourd'hui, avec 12 médailles en tout. À la fin de la journée, le compteur tricolore aura peut-être augmenté, avec plusieurs opportunités de podium, aujourd'hui notamment en biathlon. Hier déjà, Océane Michelon et Lou-Jean Monod ont décroché l'argent et l'or au sprint. Place aux poursuites hommes puis femmes tout à l'heure. Ce matin, les Bleus en sont à 7 médailles dans la discipline en une semaine. Record de Pékin déjà égalé, Fanny Lechevestrier.
7 médailles en 5 courses, c'est assez fou. Et hier soir, à Anterselva, une certaine euphorie s'était emparée du camp tricolore. Entre supporters et membres de l'équipe de France, tout le monde riait, s'embrassait. Et la Saint-Valentin n'y était pour rien, explique Cyril Burdet, l'entraîneur des Françaises.
Savourer chaque instant, faut vraiment pas banaliser ce genre de performance parce que... On voit, il y a des grosses nations qui courent après et qui n'y arrivent pas. Et nous, on est dans une espèce de spirale de réussite qui est hyper agréable à vivre.
Et à propos de spirale positive, il y en a une qui a encore une fin de loup. Écoutez plutôt la réaction de Lou-Jean Monod quand on lui fait remarquer qu'elle a déjà 3 médailles à son actif.
Oui, mais bon, je serais un peu déçue s'il n'y avait pas d'autres après. Donc...
Et rassurez-vous, les garçons ne sont pas en reste. Eux aussi en veulent plus. 4e pour 2e vendredi. Emilien Jacquelin compte bien prendre sa revanche dès ce midi.
Vous savez ce qui s'est passé 6 ans en arrière ici. C'était la même configuration. Je finissais 6e du sprint. Là, je finis 4e. Je vais être celui qui aura le plus le couteau entre les dents. Mais oui, je vais courir pour ça.
Il y a 6 ans, c'est à Anterselva que Jacquelin était devenu champion du monde de la poursuite après un sprint final d'anthologie.
Et autre chance de médaille aujourd'hui en ski de fond avec Mathis Desloges sur le relais. En football, Lens ne laisse pas passer sa chance et reprend la tête de la Ligue 1 après sa victoire écrasante hier face au Paris FC 5-0. Aujourd'hui, Lyon reçoit Nice en clôture de la 22e journée à 20h45. Et puis le tournoi Destination avec nos Bleus sur la pelouse à Cardiff au Pays de Galles. Deuxième match pour le 15 de France de rugby à 16h10. Hier, l'Écosse a battu l'Angleterre 31-20. L'Italie s'est inclinée 23-13 face à l'Irlande. 6h09 sur France Info. Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour Jeanne.
Vous nous parlez d'une météo encore très agitée aujourd'hui.
Oh là là, oui, avec de la pluie, de la neige, du vent. Nouvelle dégradation qui arrive ce matin par l'ouest du pays. Elle donne de la pluie dans la partie ouest avec un très net redoux. Mais avant le redoux, nous aurons un petit épisode neigeux dans la matinée entre les Hauts-de-France. Il neige déjà en Normandie, sur l'Île-de-France, jusqu'au centre-Val de Loire, et cet après-midi entre les frontières du Nord et le Massif central, avec un risque de pluie verglaçante. Les pluies seront soutenues sur la moitié ouest du pays. On attend encore de la neige sur les Alpes et sur les Pyrénées avec un risque d'avalanche très marqué, en particulier aujourd'hui sur les Pyrénées. Puis le temps reste sec près des frontières de l'Est et de la Méditerranée avec beaucoup moins de vent qu'hier. Mais le ciel sera de plus en plus nuageux avec des températures comprises cet après-midi entre 2 et 16 degrés. 16 degrés à Nice, 4 à Paris et 2 à Dijon.
C'est le grand écart hein, pour, oui. Pour les températures. Oui. Merci Patricia Charbonnier.
France Info le week-end.
Le billet science.
Bonjour, c'est Bill François. Je vous retrouve tous les week-ends pour vous partager une nouvelle découverte sur le monde, vous raconter une merveille de la nature ou une avancée décisive de la science.
Tous les week-ends, retrouvez le billet science, les découvertes de Bill François, à 8h25 et 10h50 sur France Info.
D'ici 6h30, l'œil de Julie avec cette question: et si les films que l'on regarde ne montraient que le point de vue des riches sur notre société? C'est la thèse défendue par un journaliste que nous allons découvrir. Mais avant ça, la carte des vigilances de Météo France est encore parsemée de rouge et d'orange ce matin. Direction le sud-ouest où le niveau de l'eau est encore bien haut.
France Info, 6h-7h, Jeanne Mézia.
La Gironde et le Lot-et-Garonne toujours en alerte maximale face aux crues en vigilance rouge. Hier, la Garonne a dépassé de 5 cm le niveau de crue de 2021 avec un pic à 9,56 m mesuré. Et cela a des conséquences physiques. À Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne, la digue de la commune a cédé, ce qui a entraîné des inondations dans certaines maisons. Par mesure de sécurité et de prévention, des centaines d'habitants ont donc dû quitter leur domicile pour la nuit. La salle de sport de la commune est devenue un centre d'hébergement où vous vous êtes rendue, Farida Noir.
Elle est assise au bord de son lit de camp, installée dans le gymnase. Son chat, blanc et roux, à l'abri dans sa caisse de transport, ne quitte pas Blanche, 80 ans, des yeux.
On préfère être à l'abri.
Sur la commune, la digue a cédé et très rapidement, son quartier a été encerclé par l'eau. Alors Blanche n'a pas eu le choix, il a fallu partir.
Et bien, c'est-à-dire que la police municipale, les gendarmes sont venus parce que, effectivement, ça monte, tout déborde.
Oui, ça vous perturbe, cette situation?
Qui ne serait pas perturbé par ce genre de choses? La Croix-Rouge, les gendarmes qui viennent nous voir, qui nous expliquent qu'on ne peut pas rentrer de suite. Et moi, je voulais rentrer, mais non, il ne faut pas. Et donc, c'est la pluie. Le désastre.
Au milieu des enfants qui courent dans le gymnase, des bénévoles de la Croix-Rouge qui servent des repas, Priscilla fait les 100 pas, téléphone à la main.
Oui, je suis au téléphone avec ma maman et ma petite sœur.
Elle rassure sa famille.
Ils sont loin, donc c'est compliqué aussi, quoi. Mais on n'a pas le choix, on s'adapte. C'est compliqué parce qu'il y a des enfants et tout, ils ont perdu leur repère, mais on est obligé de faire avec.
Vous êtes retourné voir quand même la maison aujourd'hui?
Mes voisins, ils sont retournés. Moi, je suis en premier étage et donc je ne suis pas encore inondée.
Mais chez Anna, qui habite au bord du Lot, l'eau est montée très vite et l'évacuation brutale.
Je me suis réveillée avec des coups portés à la porte puisque la digue avait cédé. C'était des riverains qui alertaient tout le monde et ils nous ont dit il faut sortir, l'eau elle arrive, il faut que tu sortes le plus vite possible. J'ai réveillé tous les enfants au brokeback de combat. C'était chaussures, manteau et on se barre. J'ai à peu près 85 centimètres d'eau dedans la maison. Toute la machinerie, les courses du mois que j'ai fait, tout est au rez-de-chaussée. Tous les vêtements des enfants, ils sont au rez-de-chaussée. Quand je vous dis que j'ai tout perdu, c'est que là, j'ai vraiment tout perdu.
À quelques mètres de là, Christian Girardi, le maire d'Aiguillon, gère l'urgence.
Je suis un peu énervé.
Car pour l'élu, des bâtards d'eau, ces barrières anti-inondation retirées il y a quelques années, auraient pu constituer un rempart supplémentaire lorsque la digue a cédé.
Lorsque la SNCF nous permettait de poser un bâtard d'eau contre la pile du pont, on protégeait totalement le quartier du Haut. Là, ce n'est plus le cas. Voilà, la digue a pété, les bâtards d'eau, on ne peut plus les mettre. Voilà.
Seule bonne nouvelle, nous dit le maire, l'eau commence à redescendre lentement, mais il redoute déjà la deuxième crue attendue pour le milieu de la semaine prochaine, selon la préfecture du Lot-et-Garonne.
Le reportage de Farida Noir à Aiguillon pour France Info. Un peu plus au nord, une digue a aussi cédé à Sainte-Croix-du-Mont dans Langonnet en Gironde. La situation est toujours critique. Même si la crue est stabilisée, le maire de Langon, Jérôme Guillem, faisait le point sur la situation hier soir.
On est dans une situation un peu étale.
qui était annoncé, puisqu'il y a, on subit les effets amont avec les flux importants qui viennent de l'Aréole, Marmande, Tonnerre. Et puis plus bas, l'effet des marées. Donc on se retrouve avec une situation qui est étale. On est à 9,06 m depuis plusieurs heures, ce qui reste préoccupant puisque on annonce encore pas mal de pluie. Donc on reste très vigilant.
Est-ce qu'il y a des habitations inondées ?
Oui, il y a pas mal d'habitations inondées, des personnes qui ont été évacuées. La cellule de crise qui s'est mobilisée depuis 48 heures a permis d'agir assez rapidement, d'installer des bâtards d'eau, d'accompagner les personnes. Donc on a eu, oui, en gros, 28 logements qui ont été évacués et seulement que deux foyers qu'on a dû reloger dans des appartements de la commune. La plupart ont pu se reloger dans la famille.
Comment est-ce que vous qualifieriez les dégâts dans votre commune ?
On fait beaucoup de comparatifs avec 2021. C'est vrai qu'en termes de volume d'eau, c'est assez similaire. Le problème, c'est qu'on s'est pris en même temps la tempête Nils et on a beaucoup de dégâts sur le territoire, notamment en ce qui concerne les coupures d'électricité, qui ont des effets importants, notamment sur la téléphonie. Et de beaucoup de mesures aujourd'hui sont faites sur les volumes d'eau grâce à la téléphonie. Donc on est assez impacté avec beaucoup de personnes qui sont coupées du monde, ce qui n'était pas le cas en 2021.
Quel est le scénario des prochaines heures, si vous le connaissez, est-ce que vous savez ce qui va se passer, est-ce qu'on annonce encore de la pluie chez vous ?
Il faut rester serein et observer être en permanence sur tourner régulièrement. Là, comme c'est étal, notre inquiétude, c'est le fait que ça s'évacue pas sur l'aval, du fait des marées et des coefficients de marée qui sont assez importants. Donc, il faut qu'on observe ce qui va se passer là, dans les prochaines heures. Alors, c'est assez difficile de dire ça va descendre et de dire que ça va augmenter. On sait que ça va augmenter un petit peu, mais les scénarios sont difficiles à prévoir.
Quel est l'état d'esprit des habitants de votre commune ?
Aujourd'hui, je pense qu'ils sont ils restent inquiets. On est très présents, à la fois les agents de la collectivité, les élus, mais aussi beaucoup de solidarité entre les personnes. Donc, malheureusement, on a déjà vécu ça en 2021, donc on sait agir, mais on sait se serrer les coudes. Donc pour le moment, on est dans une situation qui est assez embêtante, mais pas encore critique. Si ça augmente de 40 cm, ça va être très embêtant.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont en danger ce soir, ou vous estimez que les habitations qui sont les plus menacées entre guillemets par la montée des eaux, eh bien les habitants sont au courant et ont soit évacués, soit se tiennent sur leur garde?
À ma connaissance, personne n'est en danger. On a fait le tour depuis 48 heures. Les personnes qui ont dû être évacuées l'ont été. On a eu juste, parce qu'on a été bien plus, on a anticipé bien plus qu'en 2021. Donc il y a eu seulement une seule personne qui a été évacuée en barque par les pompiers. Donc, ce soir, il n'y a pas de sujet, quoi. Les personnes qui étaient parfois en détresse physique parce que malades ont été évacués vers l'hôpital ou vers d'autres centres. Donc à ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas de situation de danger.
Jérôme Guillem, le maire de Langon, avec Thomas Séchier sur France Info. Conséquences encore de la tempête. Il restait dans la soirée hier 90 000 foyers sans électricité. 4 000 agents sont mobilisés dans le sud-ouest pour rétablir la situation. Mais les inondations compliquent leur travail, explique Enedis. On n'a jamais eu une telle combinaison de crues, de pluie, de vent et de neige, déclarait hier le directeur technique du groupe. Certains secteurs sont aussi privés de réseaux de téléphone. Dans un instant, excellent démarrage dans nos salles de cinéma du film Marsupilami, qui attire petits et grands en cette période de vacances scolaires. Ce sera juste après l'essentiel de l'info.
Le tournoi Destination 2026, Pays de Galles, France, c'est à vivre sur France Info.
Bonjour, c'est Vincent Pellegrini. Après des débuts tonitruants face à l'Irlande, le 15 de France va-t-il poursuivre sur sa lancée ? Je vous retrouve tout à l'heure à Cardiff avec notre consultant, Diaco Seberi, pour vivre cette rencontre.
Pays de Galles, France, à suivre tout à l'heure dès 16h, en direct et en intégralité sur France Info.
BMW. Cette année, c'est décidé, vous vous remettez au sport. Et pour une fois, vous allez vous y tenir avec la BMW iX1 Finition M Sport. Jusqu'au 31 mars, profitez de la BMW iX1 Finition M-Sport à 390 euros par mois.
Offre pour une BMW iX1 20 M-Sport. LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer 390 euros. Opération coup de pouce de 3380 euros déduite. Réservée aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun. France Info, 6h-7h.
L'info en une minute à 6h19. Bonjour Sarah Ders.
Bonjour.
À la une, la mort du militant identitaire agressé jeudi à Lyon.
Emmanuel Macron dénonce un déferlement de violence inouïe et appelle au calme. Quand un jeune homme de 23 ans a reçu des coups mortels en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan, le ou les auteurs ne sont pas identifiés pour l'instant. L'affaire Jeffrey Epstein et la publication de nombreux documents, le parquet de Paris s'en saisit et désigne des magistrats pour analyser d'éventuelles infractions liées à des Français. Le milliardaire américain, désormais mort, est accusé de trafic sexuel. Des crues records et généralisées en France, des centaines d'habitants évacués, la Gironde, le Lot-et-Garonne maintenus en vigilance en rouge cru, une dizaine en orange, une nouvelle tempête Oriana. Le vent a soufflé fort hier à Perpignan avec des rafales à plus de 100 km/h. Sophie Anneau, bien installée à bord de la Station Spatiale Internationale pour une mission d'environ 8 mois. Je suis fière, s'émerveille l'astronaute, première française dans l'espace depuis 25 ans.
France Info. 1,5 million de spectateurs en une semaine. Le meilleur démarrage pour un film français est attribué à cet animal jaune avec ses taches noires et sa longue queue emblématique, le marsupilami. C'est le dernier long métrage de Philippe Lachaud que l'on retrouve avec sa bande Augustin Arrivé, un film bien lancé qui trouve son public.
Début de séance parisienne.
La bande à Fifi.
Faut faire quelque chose.
A un nouveau copain.
Il est complètement géant.
Ça plaît aux enfants, aux adultes aussi.
Je pense qu'il va faire des millions d'entrées, Philippe Lachaud, comme tous ses films.
Et j'aime bien qu'il y ait toujours le même casting aussi, je trouve ça intéressant.
Non, bah j'ai hâte de le voir.
Marsupilami.
C'est pas un public de cinéphile, on va dire, qui vient.
Candice Pelletier, directrice du cinéma Pâté la Joliette à Marseille.
C'est vraiment des occasionnels, c'est vraiment pour cette possibilité de me marrer entre potes, en famille.
Là, c'est juste pour se lâcher, pour pas réfléchir sur ce film, quoi.
J'ai tellement de problèmes en ce moment que ça fait du bien, voilà.
Avant même la sortie, 189 000 billets d'entrée avaient déjà été écoulés pour les avant-premières.
C'est aussi ça le succès, parce qu'ils ont fait beaucoup d'avant-premières avec toute l'équipe. Et nous, par exemple, à Marseille, quand on les a reçus, on voit l'engouement de la bande à Fifi, ça c'est incontestable, et de Jamel.
Personne ne doit être au courant de sa présence ici.
La police ! Le fait d'avoir repris Jamel dans le film initial de Chaba.
On va combien d'un signal, un cri d'animal au camp, on se retrouverait séparés.
Voilà.
Un canard dans la jungle, y a rien qui vous choque.
Il y a pas mal de gens qui veulent voir ce que ça donne la suite, je crois.
J'ai vu le premier il y a longtemps avec Alain Chabat. J'avais plutôt bien aimé.
J'avoue que le premier était pas mal.
Verdict du public après ce nouveau volet.
Le film est vendu comme un film burlesque comédie et c'est exactement ça.
Voilà, que tal ?
C'est dans la continuité de la bande à la show, etc. Donc il y a des choses qui sont un peu ridicules, mais c'est assumé. Donc en bref, pour moi, ça fonctionne.
J'ai trouvé que c'était très drôle et il y avait plein de références aussi à d'autres films. Donc ça m'a fait bien rire.
C'est un bon film pour se détendre après une journée taf ou un truc comme ça. Après, c'est pas du tout du grand cinéma. Mais après, on rigole bien, il y a des vannes salaces, ça devient marrant.
Au Pâté la Joliette, il est proposé dans 3 salles simultanément pour encore plus d'affluence.
Ça a très bien marché alors que personne n'était en vacances scolaires. Et je pense que franchement, c'est un film de vacances.
Quant au personnage du marsupilami, qu'on retrouve en peluche à la caisse du cinéma...
C'est un peu un prétexte pour avoir un animal gag, mais en soi, il n'est pas si mal fait.
J'ai vu qu'il y avait la peluche pour 15 euros, là, à la boutique.
Ça, ouais, non, ça quand même pas.
Le marsupilami actuellement en salle, et merci Augustin Arrivé. On continue de parler de cinéma dans l'œil de Julie, avec vous Benjamin Fontaine.
Le cinéma français est-il un cinéma de bourgeois fait par des bourgeois? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec vous, Julie Vialon, dans l'œil de Julie. Bonjour.
Bonjour.
Et pour y répondre, on se tourne vers Rob Grams, qui vient de sortir un livre à ce sujet.
Eh oui, le rédacteur en chef adjoint de Frustration Magazine développe cette idée. Le cinéma est fait par des riches, pour des riches. Il appelle ça le bourgeois gaze, le regard bourgeois en français. C'est une manière de filmer, de raconter le monde depuis une position sociale dominante qui se prétend universelle. Mmh. Et selon lui, 75% des gens qu'on voit dans le cinéma français sont issus de milieux sociaux aisés. Et donc la bourgeoisie est présentée comme la norme. L'auteur donne l'exemple de 16 printemps de Suzanne Lindon.
Vous aimez la musique ?
Ouais, vachement.
Et vous aimez la musique classique ?
Ouais.
Vous avez envie d'écouter un bel opéra ? C'est la musique qu'il y a au début de la pièce, Et avec les représentations, je me lasse des répliques, de la troupe, de moi-même. Mais jamais de cette musique.
Illustration parfaite hein, aux yeux de Rob Grams. Suzanne Lindon, c'est la fille des acteurs Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin. Une famille aisée, déjà installée dans le milieu du cinéma, avec des relations. Le scénario se déroule dans un milieu bourgeois, lui aussi très parisiano-centré. Le film a été sélectionné à Cannes, mis en avant dans plusieurs médias, sans pourtant aucun succès populaire.
Donc ce bourgeois gaze aurait une vraie incidence sur la qualité des films que l'on regarde.
Oui, pour plein de raisons. Hein. Il explique l'auteur, par exemple, qu'il est difficile d'avoir des acteurs convaincants dans des rôles de travailleurs parce qu'ils viennent de milieux privilégiés et sont nombreux à ne pas avoir fait de jobs normaux. Dans les films, on ne voit, selon lui, pas beaucoup de scènes de travail ou alors elles sont assez succinctes. Autre problème, selon l'auteur, la vision, l'image donnée des classes populaires et moyennes au cinéma, avec souvent un regard méprisant et ce que Rob Grams considère comme des faux genres. Les films sociaux, les films de banlieue qui finissent toujours mal, comme si la seule perspective donnée à ces classes sociales était la tragédie. En gros, l'auteur nous dit que c'est dommage. Dommage parce que ce bourgeois gaze nous prive de plein de regards intéressants. Ceux du monde agricole, des banlieues, des classes moyennes et populaires. Plus qu'à vous faire votre propre avis la prochaine fois que vous irez au cinéma.
Et pour aller plus loin sur le sujet, on peut aussi lire le livre de Rob Grams, Bourgeois Gaze. Merci beaucoup Julie. L'œil de Julie à réécouter sur l'appli Radio France.
Et merci Benjamin Fontaine. 6h25 sur France Info, c'est l'heure de se réveiller en musique avec notre playlist. Et ce matin, Matteo Maestrachi, on remonte un peu le temps avec vous pour se replonger dans la carrière du producteur de hip-hop américain J.D.
Oui, J.D., autre surnom Jay Dilla, de son vrai nom James DeWitt Yancey, qui est mort il y a 20 ans, le 10 février 2006. On lui doit, et on va y revenir, une très belle discographie comme producteur, même s'il est décédé à seulement 32 ans, en nous laissant d'ailleurs un très bel album cette même année 2006, la compilation instrumentale Donuts. J.D. a grandi à Détroit avec une mère chanteuse d'opéra et un père bassiste de jazz, ce qui a fait sa belle éducation musicale. Il commence à bidouiller des productions rap à 18 ans, au début des années 90, et son talent épate déjà les rappeurs locaux du Michigan. Il forme le groupe Slum Village qui sort l'album Fantastic Volume 1 en 1996. J.D. commence à être repéré par les stars américaines du rap et R&B. Il signe alors des remixes pour Janet Jackson, The Pharcyde, Busta Rhymes. Il se retrouve même à produire la majorité des titres de l'album Beats, Rhymes and Life de Tribe Called Quest. Et plus tard, en 2000, sort l'album culte de Slum Village, sorte de magnum opus pour J.D. Fantastic Volume 2. Il est au sommet de son art avec des instrumentaux qui n'ont pas pris une ride 26 ans plus tard et des productions parfois presque électro. Souffrant d'une rare maladie du sang, J.D. meurt donc en février 2006. Mais son héritage et son influence restent très importants. 20 ans après, il restera à jamais associé à plusieurs classiques du rap américain, comme le morceau Stacks Is High de De La Soul.
Matteo Maestrachi pour la playlist de France Info avec le producteur hip-hop américain J.D. La météo et un nouveau journal à suivre.
La Banque Postale accompagne les entreprises dans leur transition écologique. Sylvie Cazenave-Perret, présidente de Poisson Packaging, spécialisée dans les emballages recyclables, a intégré la RSE dès 1995. Avec cette démarche, elle a redressé l'entreprise, désormais leader sur son marché. Et aujourd'hui, pour atteindre son engagement à être zéro émission nette en 2028, le groupe s'appuie sur la Banque Postale pour le financement d'une plateforme logistique destinée à optimiser ses flux de transport. Pour en savoir plus, rendez-vous sur labanquepostale.fr/transition-écologique.
Wow. prenez un aller simple chez votre concessionnaire Mini et faites le trajet retour au volant de la Mini électrique édition Camden. Maintenant disponible d'occasion dès 190€ par mois, sans apport. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Montant total dû avec option d'achat final 19 990,62€. Exemple d'offre LOA 36 mois pour une Mini électrique édition Camden d'occasion réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 mars 2026 dans la limite des stocks disponibles. Détails sur mini.fr. Pensez à covoiturer.
Patricia Charbonnier, la météo avec cette nouvelle dégradation qui arrive par l'ouest.
Qui va traverser le pays d'ouest en est, qui donne de la pluie. Ce matin, sur la moitié ouest du pays, ces pluies seront localement soutenues. On a déjà de la neige ce matin sur la Normandie. Et un petit épisode de neigeux va se déclencher dans la matinée entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France jusqu'au centre-val de Loire. Et cet après-midi, entre les frontières du Nord et le Massif central, avec en plus un risque de pluie verglaçante cet après-midi sur la Bourgogne, la Franche-Comté et l'est de l'Île-de-France. Le temps reste sec aujourd'hui, près des frontières de l'est et dans le sud-est, avec encore du mistral et de la tramontane, mais moins fort qu'hier. Mais le ciel sera de plus en plus nuageux cet après-midi. Et attention, risque d'avalanche toujours très marqué, en particulier sur les Pyrénées, avec des températures comprises entre 2 et 16 degrés cet après-midi. 2 à Lille, 4 à Paris, 13 à Toulon et 14 à La Rochelle.
Merci Patricia Charbonnier et merci de vous réveiller avec nous en ce dimanche 15 février sur France Info. Il est 6h30.
France Info. Jeanne Mézia.
Le militant nationaliste de 23 ans, victime de violence jeudi soir à Lyon, est mort, annonce hier soir du parquet, qui précise que l'enquête pour coup mortel aggravé se poursuit. Ce jeune homme a été frappé dans une rue de la ville en marge d'une conférence de l'eurodéputé LFI Rima Hassan. Audrey Tison, la tension monte autour de cette affaire et fait réagir le chef de l'État.
La haine qui assassine n'a pas sa place chez nous. J'appelle au calme, à la retenue et au respect, écrit le président de la République. Aucune idéologie ne justifiera jamais que l'on tue, insiste Emmanuel Macron, qui juge indispensable de traduire en justice les auteurs de cette ignominie. La justice, c'est aussi ce que réclame Marine Le Pen. Elle demande que soient condamnés avec la plus grande rigueur les auteurs d'un acte criminel d'une violence inouïe. La veille, elle pointait du doit la responsabilité de milices d'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a pas de mots pour la victime, mais dénonce les accusations sans aucun fondement contre les insoumis, ainsi que les attaques sur plusieurs permanences LFI dans le pays ces dernières heures. Message auquel répond Bruno Retailleau. Ce n'est pas la police qui tue en France, c'est l'extrême gauche, accuse le président des Républicains.
Et dans ce contexte, plusieurs candidats aux municipales à Lyon suspendent leur campagne électorale. Un rassemblement est prévu à 16h à Paris en hommage à Quentin, place de la Sorbonne, avec une sécurité renforcée. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur rappelle les préfets à la vigilance autour des rassemblements politiques et des permanences de campagne, alors que deux permanences de la France insoumise ont été dégradées à Metz et à Lyon. Les responsables de la sécurité incendie de Crans-Montana, entendus ces derniers jours en Suisse, un mois et demi après l'incendie du bar Constellation qui a fait 41 morts et 115 blessés. Ces personnes interrogées sont considérées comme prévenues par la justice, tout comme le couple français de gérants du bar. Aurélien Tirard, vous nous révélez ce matin le contenu des auditions de ces deux responsables qui ont expliqué pourquoi aucun contrôle incendie n'a été réalisé au Constellation depuis 2019.
Oui, et à les entendre, il s'agit d'un problème d'effectifs et de compétences. L'ancien responsable sécurité incendie de Crans-Montana le rappelle. En 2017, quand j'ai commencé, j'étais seul. Et malgré le renfort de trois personnes, malheureusement, vu la charge de travail, ces contrôles étaient souvent décalés, voire reportés. Environ 130 bâtiments à inspecter tous les ans, comme la loi les y oblige. Son successeur ne dit pas autre chose. Je cite, « Vu la quantité d'établissements et du peu de personnes en place, c'était impossible de respecter la législation. » Et ce qui ressort de ces deux auditions, c'est que ce problème était connu des plus hautes instances à Crans-Montana. Nicolas Ferraud était au courant de cette situation. Nicolas Ferraud, le président de la commune. En conférence de presse, juste après l'incendie, il avait confié devant les caméras du monde entier ne pas pouvoir expliquer pourquoi le bar géré par le couple Moretti n'avait pas été contrôlé ces cinq dernières années. Des familles de victimes viennent de porter plainte contre lui pour, je cite, « des manquements gravissimes ».
Les explications d'Aurélien Tirard pour France Info. Les intempéries en France et toujours ces crues suite au passage de la tempête Niels, la Gironde et le Lot-et-Garonne ont toujours les pieds dans l'eau en vigilance rouge sur la carte de Météo France encore ce matin. 90 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir. Dans les Landes, un homme est décédé intoxiqué au monoxyde de carbone. Hier, sa femme est hospitalisée. Le couple utilisait un groupe électrogène pour se chauffer. Il y a aussi cette nouvelle tempête qui touche les Pyrénées-Orientales. Avec hier des rafales à plus de 100 km/h à Perpignan, la préfecture interdit les rassemblements de personnes et les rencontres sportives. En région parisienne et dans les Hauts-de-France, c'est la neige qui perturbe la journée. Vigilance orange, neige et verglas avec la circulation des voitures au ralenti et un trafic aérien réduit à cause de ces épisodes météo. En tout, dans le pays, ce sont 28 départements qui sont concernés par au moins une vigilance orange. Enfin, au Touquet, l'événement de la journée, c'est l'Enduropale qui fête ses 50 ans, la plus grande course de moto sur sable au monde, avec 3000 concurrents et pas moins de 700 000 spectateurs attendus aujourd'hui. 6h35, voici les sports.
France Info Sport avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. Rendez-vous sur FreePro.com.
Avec cet après-midi, le deuxième match du tournoi des Six Nations, nos Bleus en rugby. Avec leur première victoire face à l'Irlande, les joueurs du 15 de France sont au Pays de Galles à Cardiff et vont affronter une équipe en pleine crise, Vincent Pellegrini.
Dans les rues de Cardiff, au pied du Millennium Stadium, les supporters gallois font grise mine et partagent le même pessimisme.
C'est vraiment difficile en ce moment. L'équipe manque beaucoup d'expérience et certains joueurs ne sont pas au niveau. C'est assez déprimant. On n'y arrive plus. Je n'attends pas une grande performance demain. Les Français sont bien meilleurs, ça c'est sûr.
Quelques chiffres pour illustrer la crise profonde que traverse le rugby gallois. Le 15 du Poirot reste sur 12 défaites consécutives dans le tournoi du jamais vu et il vient d'encaisser 73 points face à l'Afrique du Sud en novembre et 48 le week-end dernier en Angleterre. Un déclin de taille que regrette le consultant rugby de Radio France, Guy Akosseberi.
C'est inquiétant et triste parce que le Pays de Galles est quand même une vraie nation de rugby qui a dominé l'Europe et même le monde dans les années 70-80 avec des joueurs qui ont marqué la légende du rugby. Une fédération qui tombe bien bas parce que je crois que ce sont surtout les problèmes financiers de la fédération qui ont fait que tout s'est dégradé au niveau des provinces, donc qui dit province qui se dégrade, ça veut dire que les meilleurs joueurs quittent le pays, ça veut dire que les jeunes ne sont pas formés comme il était. De la tristesse parce que c'est vraiment une grande nation de rugby. Moi, ça m'a toujours fait penser un peu au All Black, petite nation, mais là, ancrée au milieu des Anglais, des Écossais, mais qui s'en est toujours sorti. Donc voilà, espérons que rapidement ils retrouvent des couleurs et qu'on retrouve une belle équipe du Pays de Galles.
Si les résultats du 15 gallois sont catastrophiques, la magie du Millennium Stadium opère toujours, souligne le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié.
Pour moi, le Millennium, c'est peut-être le plus beau stade au monde. Toit fermé, des chœurs gallois, une ambiance très très particulière et où le groupe est plus fort que tous les individus. Parce qu'en face, on va avoir 80 000 Gallois qui vont pousser leur équipe. On ne doute pas de l'engagement des Gallois et de leur public dimanche.
L'an dernier au Stade de France, le 15 de France avait surclassé le Pays de Galles 43-0. C'était la 7e défaite consécutive des Gallois face aux Bleus.
Et Pays de Galles-France, coup d'envoi à 16h10. Hier, l'Écosse a battu l'Angleterre 31-20 et l'Irlande s'en est sortie 20-13 face à l'Italie. Italie où on se rend pour les Jeux de Milan en Cortina avec un événement spécial cet après-midi. Un moment qui s'annonce émouvant pour Martin Fourcade, le biathlète retraité, va recevoir la 6e médaille d'or olympique de sa carrière et devenir par la même occasion le Français le plus titré de l'histoire des Jeux. Cette récompense date de 2010 à Vancouver sur la Mass Start. L'or vient de lui être réattribué suite au déclassement du Russe Yutsugov pour dopage. Alors, quelle saveur a cette médaille ? Martin Fourcade nous donne sa réponse.
Plutôt une saveur très douce, très agréable. C'est vrai que bien souvent, quand on me parle de cette remise de médaille, on évoque les sentiments de frustration, de vol et d'émotions volées. En ce qui me concerne, je considère au contraire que c'est la chance de faire revivre une médaille près de 16 ans après, que c'est l'occasion de réparer une injustice.
Est-ce que ça veut dire aussi pour vous que, quelque part, la lutte antidopage fonctionne? Peut-être pas tout le temps, peut-être pas à 100%, mais ça fonctionne.
Non, forcément, elle fonctionne pas tout le temps. On sait que les tricheurs auront toujours une avance sur la recherche. Après, elle est indispensable quand on a envie d'avoir un sport propre. Donc je vois plus ça comme un clin d'œil du destin et comme une chance que j'ai en fait de poursuivre cet investissement et cette quête-là, en montrant aux trigeurs que bah, ils seront jamais tranquilles, même 16 ans après, qu'on peut revenir sur des titres, qu'on peut revenir sur des médailles. Et oui, quand on a investi cette lutte, comme je l'ai fait pendant des années, pendant ma carrière, c'est plutôt un message qu'on prend très positivement.
Est-ce que votre carrière aurait été différente si vous aviez eu cette médaille d'or en 2010?
C'est une question à laquelle j'aimerais pouvoir vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que ça aurait écrit mon histoire différemment. Je crois que j'ai eu besoin, moi, de ces 4 ans entre Vancouver 2010 et Sochi 2014 pour me construire, pour rêver avec cette ambition olympique, celle de devenir champion olympique après avoir décroché l'argent. Et assez étonnamment, une part de moi restera toujours médaillée d'argent à Vancouver parce que c'est ce qui m'a permis de me construire comme ça. Ça a été une médaille qui a été hyper fondatrice dans ma faculté à avoir envie de rêver plus haut, dans l'histoire que j'ai pu construire avec mon grand frère aussi, qui a été façonné par cette médaille d'argent de Vancouver. Ça a été un moment difficile de renvoyer ma médaille d'argent parce que, voilà, au fond de moi, je resterai toujours aussi ce vice-champion olympique de Vancouver qui a été révélé au grand public à ce moment-là et qui a construit son parcours autour de ce moment fondateur.
Martin Fourcade avec Antonin Kermen, d'ici 6h pour France Info. Remise de médaille tout à l'heure sur le site d'Anter Selva. Entre 2 courses de biathlon du jour, les poursuites hommes et femmes avec des chances de podium encore pour nos bleus en compétition. Avant 7h, comme chaque dimanche, on s'intéresse à ces destins qui font l'info. 3e épisode de notre série consacrée au rappeur Jules. Et aujourd'hui, on découvre sa team, le petit surnom qu'il donne à ses fans. Mais d'abord, on revient sur la mort de ce jeune militant identitaire agressé à Lyon.
France Info, 6h, 7h, Jeanne Mézia.
Alors qu'il était hospitalisé depuis jeudi soir, Quentin, un militant nationaliste de 23 ans, est mort hier à Lyon. Ce proche du collectif d'extrême droite Némésis a subi des violences lors d'une altercation en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Une enquête est en cours pour déterminer ce qu'il s'est passé. Bonjour Timur Öztürk.
Bonjour à tous.
On fait le point avec vous sur ce que l'on sait de ces violences.
Jeudi soir à 18h, l'eurodéputée insoumise Rima Hassan tient une conférence à l'Institut d'études politiques de Lyon dans le 7e arrondissement. Quant à l'extérieur du bâtiment, le collectif identitaire Némésis déploie une banderole islamo-gauchiste hors de nos facs pour protester contre sa venue. Vers 18h40, ces militantes de Némésis sont prises à partie. Sur une vidéo, on voit l'une d'elles violemment plaquée au sol. D'après le collectif, Quentin fait alors partie d'un groupe d'une quinzaine d'hommes présent pour assurer la sécurité des militantes. À quelques centaines de mètres de Sciences Po, rue Victor Lagrange, une rixe éclate entre 2 groupes d'une vingtaine de personnes, selon un riverain interrogé par nos confrères de TF1. Ce témoin filme la scène, mais sur les images, ce n'est pas un affrontement, mais bien un lynchage que l'on observe. 3 personnes au sol, tabassées par une douzaine d'autres. Coup de poing, coup de pied à la tête. 2 victimes se relèvent et s'éloignent. La 3e personne reste au sol, inanimée. Il pourrait s'agir de Quentin. L'avocat de sa famille dénonce un guet-apens tendu par des individus organisés, entraînés et armés.
Et Timur, les militantes de Némésis accusent des militants antifascistes d'être les auteurs de ces violences.
Oui, des militants de la Jeune Garde antifasciste, groupe fondé en 2018 par Raphaël Arnaud, aujourd'hui député La France Insoumise, dissous l'année dernière en juin en Conseil des ministres. Les militantes identitaires disent avoir reconnu un collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud. La France Insoumise réfute, elle, toute responsabilité dans ces violences. C'est vers 19h40 et à plus d'un kilomètre de la rue Victor Lagrange, quai Fulchiron, en bord de Saône, que Quentin, très grièvement blessé, est pris en charge par les pompiers après un appel de ses amis. Le parquet de Lyon indique que l'enquête se poursuit. Désormais pour coups mortels aggravés, violences aggravées en réunion avec usage d'armes et dissimulation du visage.
Emmanuel Macron appelle de son côté à condamner les auteurs de cette ignominie. À suivre, le choix de France Info, direction la Lorraine où une nouvelle source d'énergie vient d'être identifiée avec la présence d'hydrogène naturel. Avant ça, un nouveau tour de l'actualité.
France Info, 6h-7h.
Et l'info en une minute à 6h43 avec vous, Sarah Ders. À la une, l'arrivée d'un épisode neigeux sur l'île de France et les Hauts-de-France.
Avec des chutes de neige de 3 à 6 cm dans le nord, une quinzaine de départements en vigilance orange, neige, verglas. La vitesse est abaissée sur les routes de 20 km/h. Des vols sont supprimés dans les aéroports franciliens. Après la mort de Quentin à Lyon, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez appelle les préfets à renforcer la vigilance autour des rassemblements politiques. Le jeune militant nationaliste a été agressé jeudi en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Un rassemblement en son hommage prévu à Paris à 16h, place de la Sorbonne. Des drapeaux iraniens brandis sous la pluie de Munich. Près de 250 000 manifestants hier et partisans du fils de l'ancien Shah Reza Pahlavi, une des figures de l'opposition au régime des Mollahs. Manifestation en marge de la conférence de Munich sur la sécurité en présence de dirigeants du monde entier. La France, cinquième au Jeux d'hiver 2000 en Cortina, 12 médailles dont 7 en 5 courses pour le biathlon français qui égale son record et le dépassera peut-être aujourd'hui avec les poursuites hommes et femmes, 11h15, 14h45.
France Info. 6h44, le choix de France Info. La Lorraine, terre de charbon, deviendra-t-elle bientôt une terre d'hydrogène naturel ? Le CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique, vient de mettre en évidence la présence de cette nouvelle source d'énergie à une quarantaine de kilomètres de Metz. Il y en a peut-être des dizaines de millions de tonnes. Bonjour Grégoire Le Callot.
Bonjour.
Vous vous êtes rendu à Pompières, près de la frontière luxembourgeoise, où un forage expérimental a été installé.
Oui, alors expérimental, mais déjà monumental. Une tour de forage d'une quarantaine de mètres de haut trône au sommet d'une colline au-dessus du village de Pompières. Et par en dessous, mais ça va encore plus loin, puisqu'il s'agit de descendre une grosse seringue, en quelque sorte, jusqu'à 3 ou 4 000 mètres de profondeur pour aller chercher de l'hydrogène naturel. Yann Fouan est le responsable des relations publiques de la Française de l'énergie. C'est l'entreprise qui exploite le forage.
L'hydrogène naturel, aussi appelé hydrogène natif, blanc... En fait, c'est un hydrogène qui est formé naturellement par la planète. Là, on est sur une énergie primaire. C'est la nature qui fait le boulot dans des quantités assez importantes. Ce qui a été évalué, c'est une ressource qui serait de l'ordre de 34 millions de tonnes. Ça représenterait potentiellement la ressource d'hydrogène naturel la plus importante du monde.
Et puisqu'il est naturel, cet hydrogène blanc ne nécessite pas d'usine, utilisant d'énormes quantités d'électricité pour être fabriqué, contrairement à l'hydrogène dit vert ou gris quand il est fait à partir d'électricité polluante.
Et en quoi cet hydrogène naturel serait particulièrement bénéfique ?
Eh bien, l'absence d'installations industrielles lourdes et voraces le rend économiquement attractif, Yann Fouan.
On est dans des ordres de grandeur de prix qui n'ont rien à voir. Encore une fois, c'est la nature qui fait le plus gros du boulot. Donc, il n'y a pas de procédé industriel pour créer cette ressource. On espère, nous, la mettre à disposition sur le marché à environ 2 euros le kilo à la tête de puits. L'hydrogène vert avec subvention, on est beaucoup plus haut, puisque le marché aujourd'hui est à 8 voire 12 euros le kilo, mais les usages sont différents.
Alors le projet de recherche à 14 millions d'euros est financé par l'Union européenne et la région Grand Est. Son président Franck Leroy y a vu la clé pour débloquer l'usage de l'hydrogène.
Si un certain nombre de projets sont aujourd'hui abandonnés ou différés, c'est parce que les coûts de production de l'hydrogène vert sont extrêmement élevés. Si on a affaire là effectivement à de l'hydrogène blanc, c'est-à-dire de l'hydrogène naturel, évidemment les coûts d'exploitation seront bien inférieures et donc ça offre une alternative qui est potentiellement extrêmement compétitive en termes de coûts pour l'industrie.
Sidérurgie, verrerie, cimenterie, donc elles peuvent espérer aussi trouver une alternative au gaz importé. Pour les réseaux de chaleur urbain, l'hydrogène est moins évident à cause des problèmes de fuite de canalisation. La petite taille des molécules d'hydrogène les rend particulièrement fuyardes, ce qui contribue pour le coup à l'effet de serre et donc au réchauffement climatique. Une utilisation dans certains carburants, transports lourds, aviation est aussi possible à condition que la molécule naturelle ait le degré de pureté requis pour cet usage.
Et du point de vue écologique, Grégoire, est-ce que c'est intéressant aussi ?
Ça dépend de la manière dont cet hydrogène naturel est formé. C'est l'une des questions sur lesquelles travaille le laboratoire géoressources du CNRS, qui conduit les recherches avec l'entreprise. L'hypothèse qui tient la corde, c'est une réaction chimique dans le sous-sol entre un minéral porteur de fer et de l'eau. Si ça se confirme, il s'agirait d'une petite révolution, estime Jacques Pironon, directeur de recherche émérite au CNRS.
Tant que vous aurez ce minéral porteur de fer, tant que vous aurez de l'eau dans le milieu naturel, vous allez pouvoir renouveler ce stock d'hydrogène. Ça peut paraître un peu magique, et c'est la première fois, en effet, on va pouvoir parler d'une ressource du sous-sol comme d'une ressource renouvelable.
Marieke Steyn est enseignante-chercheuse spécialisée en énergie et membre de l'association de défense de l'environnement Appel 57. Elle dénonce pour sa part un mythe autour de l'hydrogène.
Pour l'instant, l'hydrogène, c'est une spéculation. Ça relève de ce qu'on appelle parfois l'économie de la promesse. C'est d'abord une aubaine pour des entreprises qu'on appelle juniors dans le secteur extractif, c'est-à-dire des entreprises dont le business model est fondé avant tout sur l'obtention de subventions publiques et sur de l'actionnariat. Mais des vrais risques existent sur les nappes phréatiques que vont traverser ces forages en Lorraine. Et puis surtout, le vrai problème, en plus de la dépense d'argent public, c'est que tant qu'on finance des mythes comme l'hydrogène, on ne parle pas d'économie d'énergie ni de sobriété. Ça, c'est peut-être le point le plus ennuyeux.
Alors, miracle ou pas, la mise en production de cette ressource d'hydrogène naturel n'est de toute façon pas pour demain. Le projet de recherche doit encore durer 3 ans.
Le choix de France Info, signé Grégoire Lecalot, à retrouver sur franceinfo.fr. À suivre, le billet science de Bill François consacré à l'acier. Mais tout de suite, le plus célèbre des rappeurs marseillais dans ses destins qui font l'info.
Jules a des fans par millions et il les aime. Il leur a même donné un nom, la team. Un jour, il décide de la faire participer directement.
J'ai envie de faire une instru en live avec vous et j'ai même envie de prendre vos voix.
Le titre s'appellera 4 juin 2022, date de ce concert au Stade Vélodrome. Chaque sortie d'album, il republie les vidéos de ses fans qui chantent ses chansons en playback face caméra. Et s'il y a bien un signe de ralliement à cette communauté, c'est le signe Jules.
Quand tu fais comme ça, là tu as le J, là tu as le U, là tu as le L. Jules.
Appelle-moi l'OVNI.
Ce signe avec les deux mains collées, pouce, index et majeur dressés. En 2019, une pétition en ligne réclame qu'il devienne un emoji sur les téléphones. 28 000 signatures. Quelques mois plus tard, l'application Jules arrive en tête des téléchargements et permet d'envoyer ce fameux signe. Même Rihanna a été prise en photo en train de le faire.
J'aurais pu choisir la rue Adriano. On fait le signe Jules comme Rihanna. Transat de popo à Propriano. Je fais une carrière grande.
Dans sa team, autant d'hommes que de femmes. Il a peu de paroles vulgaires ou dégradantes envers les femmes. Et Jules leur parle directement. Il gère encore lui-même en grande partie ses réseaux sociaux, quitte à s'attirer une fois de plus des moqueries, car il fait des fautes, beaucoup de fautes.
Franchement, et même si je fais des fautes, qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous qu'on me plie et me comprenne? C'est l'essentiel. Et moi, mon but, c'est pas de... C'est de chanter, de faire écouter mes sons. Je m'en fous de... D'écrire, de mal écrire, j'en fous. Moi, quand j'écris un message à ma mère ou aux avocats, même j'écris avec des fautes. Non.
Ça veut le port d'armes et les gros bras en Claude Van Damme. J'fume la beuh d'Amsterdam, celle qui est bonne qui tente au crâne.
Jules affiche et revendique une grande simplicité. Ne s'habille pas avec des marques de luxe. Il inverse les codes du rap et ça marche. Et pourtant, Jules noie ses fans sous les albums. Pas de rareté, pas d'attente. 2 à 3 albums par an depuis 2014, sans compter les albums gratuits, 8 en 10 ans. Le premier contenait par exemple ce tube qui a contribué à son succès.
Elle a le regard qui tue, qui tord. Cheveux longs comme qui tord. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes.
Jules ne semble pas lasser sa team. Il impressionne par sa capacité à travailler, à sortir des tubes.
Le mec est un génie. En 5 minutes, il commence à composer.
Le rappeur Mister You.
L'instru, il me dit « Attends, je vais aller faire une petite mélo ». Il s'enregistre tout seul, c'est-à-dire il fait entrer, clac, il court, il va dans la cabine, il rentre, il se met devant le micro, il fait des mélodies. Franchement, Jules, c'est un tueur à gage.
Mais Jules produit tellement que certaines chansons portent le même nom sur 2 albums différents. Alors qu'est-ce qui fait que ça marche? Si Jules reprend ouvertement Michael Jackson... Les démons de minuit. Pour le reste, la recette semble reposer sur quelques ingrédients de base. Une boucle rythmique, un sample, des basses, des mélodies simples, une voix auto-tunée à outrance.
Ça fait longtemps que j'avais pas sorti Maria.
Jules a créé son propre style musical, la Jules ou le type Jules, et pour les paroles, c'est le quotidien.
Italia, moi je suis comme maman, des fois j'écoute Alida. Je pense l'audit,
fait beau, j'prends la moto. Mandatico sous mes dos dans l'auto. Casse la beille, y'a les bleus dans le rétro.
L'amour, l'alcool, la moto, le shit, en trop grande quantité. C'est ainsi que Satim pense le connaître, y voit un pote, la zone en personne, alors qu'il est extrêmement rare dans les médias, s'exprime mal et peu. En réalité, on ne sait rien de sa vie privée, et cette Chiquita, dont il parle sans cesse, reste un mystère très bien gardé.
Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, Chiquita. Regarde qui tu dis, Kita. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, Chiquita. Elle a le regard qui tu dis.
Le rappeur Jules, raconté par Solène Cressant et Shérif Bitelmadji, c'était l'épisode 3 de notre série Ces destins qui font l'info, à retrouver en intégralité sur l'application Radio France. 6h54, le billet science. Avec vous, Bill François, bonjour.
Bonjour.
Des chercheurs de l'université de Gringer dans l'Illinois, aux États-Unis, ont enfin compris, Bill, le secret de la solidité de l'acier.
Et plus précisément, ils ont compris un secret magnétique de l'acier. Vous connaissez, dur comme de l'acier, hein. L'acier, c'est un métal d'usage courant et on sait tous qu'il est très dur, et ce, depuis qu'on le produit, depuis la préhistoire. Alors, c'est un alliage de fer et de carbone. Et pour le produire, il faut le chauffer industriellement dans un haut fourneau. Et on avait remarqué depuis longtemps que si on appliquait alors des champs magnétiques à l'acier, lors du chauffage, il pouvait rendre l'acier plus résistant. Mais jusqu'à présent, personne ne savait ni pourquoi, ni comment. Et donc les ingénieurs ne pouvaient pas utiliser ce phénomène de manière fiable et prédictible.
Jusqu'à une étude publiée il y a 2 semaines.
Les physiciens ont mené des simulations permettant de modéliser sur l'ordinateur le comportement des atomes d'un morceau d'acier pour visualiser ce qu'il se passe quand on le chauffe ou qu'on lui applique un champ magnétique. Dans l'acier, les atomes de fer sont très bien organisés. Ils forment des octaèdres, un peu comme les boules de billard au début d'une partie. Et les atomes de carbone viennent se loger dans les interstices entre ces boules, qui leur forment comme des petites cages au milieu des atomes de fer. Sous l'effet de la température, ces atomes de carbone peuvent bouger d'une cage à l'autre. La chaleur, c'est sa définition, c'est l'agitation des atomes. Le champ magnétique, lui, va ralentir ce processus en alignant les atomes de carbone les uns avec les autres, comme autant de petits aimants. Et c'est cet équilibre entre désordre et alignement qui, à l'échelle du matériau, donne au métal chauffé sous champ magnétique sa solidité.
Et cela pourrait permettre à l'industrie, Bill, d'améliorer les propriétés de l'acier.
Encore mieux que ça, on pourrait produire plus solide et le faire avec moins d'énergie. Les champs magnétiques nous dispenseraient d'avoir à chauffer trop fort. Et c'est très important car la sidérurgie coûte extrêmement cher en énergie. Le secteur de l'acier représente à lui tout seul 8% des émissions mondiales de CO2. La science souhaite donc à ces atomes aimantés de nous fournir un acier plus propre qui solidifie notre avenir. C'est peut-être déjà dans les fourneaux, en tout cas, on y croit dur comme fer.
Le billet science avec Bill François à réécouter sur franceinfo.fr. La météo à suivre.
La Banque Postale accompagne les entreprises dans leur transition écologique. Sylvie Cazenave-Perret, présidente de Poisson Packaging, spécialisée dans les emballages recyclables, a intégré la RSE dès 1995. Avec cette démarche, elle a redressé l'entreprise, désormais leader sur son marché. Et aujourd'hui, pour atteindre son engagement à être zéro émission nette en 2028, le groupe s'appuie sur la Banque Postale pour le financement d'une plateforme logistique destinée à optimiser ses flux de transport. Pour en savoir plus, rendez-vous sur labanquepostale.fr/transition-écologique.
Le tournoi Destination 2026, Pays de Galles, France, c'est à vivre sur France Info.
Bonjour, c'est Vincent Pellegrini. Après des débuts tonitruants face à l'Irlande, le 15 de France va-t-il poursuivre sur sa lancée? Je vous retrouve tout à l'heure à Cardiff avec notre consultant, Diaco Seberi, pour vivre cette rencontre.
Pays de Galles, France, à suivre tout à l'heure dès 16h, en direct et en intégralité sur France Info.
La La météo, Patricia Charbonnier, avec cette pluie qui continue de tomber.
Et c'est reparti avec une nouvelle dégradation qui arrive ce matin par l'ouest du pays. Alors cette dégradation donne de la pluie sur la moitié ouest avec un très net redoux. Mais avant le redoux, on aura quelques averses de neige. C'est déjà le cas ce matin sur la Normandie, sur le centre-val de Loire. Ces averses de neige vont ensuite gagner les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Cet après-midi, elles s'étendront des frontières du Nord au Massif central avec un risque de pluie verglaçante cet après-midi. Attention sur la Bourgogne, la Franche-Comté et l'est de l'Île-de-France. Le temps reste sec aujourd'hui près des frontières de l'Est. On a même du soleil ce matin dans le sud-est avec encore du mistral et de la tramontagne, mais ces vents vont faiblir au fil de la journée. Le temps deviendra de plus en plus nuageux cet après-midi. On a toujours ce risque d'avalanche marqué sur les Alpes et très marqué aujourd'hui sur les Pyrénées. Alors avec des températures qui seront très contrastées, on a le redoux qui se fait très très vite par l'ouest du pays, mais le froid résiste encore sur le nord et sur l'est. Cet après-midi, nous aurons seulement 2 degrés à Dijon et Lille, 3 degrés à Nancy, 4 degrés à Paris. À Paris, le redoux va se faire surtout dans la soirée. 4 degrés en début d'après-midi, mais 10 degrés attendus dans la soirée. 6 degrés cet après-midi à Clermont-Ferrand, 11 degrés à Nîmes, 12 à Bordeaux, 13 à Toulon, 14 degrés à La Rochelle et jusqu'à 16 degrés à Nice. Et la tendance pour la semaine, c'est toujours ce défilé de perturbations avec encore beaucoup de pluie dans le sud-ouest.
Bon, on a tous les temps et toutes les températures aujourd'hui en France. Merci Patricia Charbonnier. Il sera 7h dans une minute, le moment de retrouver Adrien Beck qui vous accompagne jusqu'à 10h. Bonjour Adrien.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous en ce dimanche matin. À mes côtés, Patricia Charbonnier.
Bonjour Adrien.
Ma chère Patricia. Je salue également Paul Longsens-Spinelli. Bonjour Paul.
Bonjour Adrien.
On vous retrouve dans quelques secondes pour le journal. Juste le temps de vous donner un rendez-vous et de vous poser quelques questions aussi, puisque on va, enfin, c'est une question en tout cas qu'on va se poser. À quoi ressemble la vie à 400 km au-dessus de nos têtes? Sophie Adnaud est arrivée cette nuit dans la Station Spatiale Internationale. Alors justement, y a-t-il des nuits, y a-t-il des jours là-bas? Avec la pesanteur, peut-il y avoir un mal de l'espace, comme une sorte de mal de mer? À quoi vont maintenant ressembler les journées de l'astronaute française? On répond à toutes ces questions dans une petite heure avec une spécialiste de l'espace. Et puis on vous raconte aussi d'ailleurs dans quelques secondes cette arrivée de Sophie Adnaud dans la Station Spatiale Internationale. Voilà pour une partie du programme. Il y a beaucoup d'autres choses évidemment qui vous attendent. Vous êtes les bienvenus.